Tous les jeudis à 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Cogito ergo sum, quand bien même errare humanum est, ecce homo, Romain Baxer, bonjour.
Ah mais bonjour, et cave canem, hein, surtout. On citait du latin parce que ce livre en est truffé. La chronique aujourd'hui, donc il s'agit de La nuit des orateurs, ouvrage écrit par Eddy Kadour, publié chez Gallimard dans la collection Blanche.
Eddy Kadour.
Oui, vraiment un mot sur Eddy Kadour, j'y tenais parce que c'est un auteur rare, comme on dit, c'est-à-dire qu'il publie très peu. Ouais. Vous voyez, depuis en 20 ans, il a écrit que 3 romans. Et avant ces 20 ans, il n'avait écrit que de la poésie. Et il a décidé d'arrêter la poésie à 20 ans pour écrire des romans. Et
donc, le dernier en date, c'était 2015, c'était il y a déjà 5 ans. C'était voilà. Les prépondérants, si je me souviens bien.
Tout à fait, voilà, qui avait reçu donc, le grand prix de l'Académie française. Et le précédent, enfin le premier en fait, hein, Waltenberg, a eu le prix Goncourt du premier roman en 2010. Voilà, donc c'est vraiment un auteur rare. Il nous revient donc cette année avec ce quatrième roman, La nuit des orateurs.
Et on fait un voyage dans le temps, pour le coup.
Voilà, donc là, on n'est plus du tout au XXe siècle, on est au premier siècle de notre ère. C'est vraiment passionnant, c'est l'affaire Massa. Alors donc là, pour faire un petit, voilà, un petit contexte historique, hein, qu'est-ce qui se passe au premier siècle de notre ère dans l'Empire romain? Donc là, on est en 93, hein, un siècle après la fin de Jules César. Hein, Jules César est mort en 44 ou 49, si je me souviens bien, avant Jésus-Christ.
C'est deux JC, en l'occurrence. C'est bien que je sois là, quand même. Hein.
Oui, oui, il faut faire sortir des rails de la chronique. C'est vrai que sinon, ça peut devenir vite roboratif. Mais tout de même, essayons d'encadrer historiquement ce texte. Donc, un siècle après la fin de la République, donc là, c'est l'Empire. Hein, c'est l'Empire romain à son apogée. L'empereur s'appelle Domitien. Hein, il a régné une quinzaine d'années, hein, de 81 à 96. Et donc, c'est un empereur tyran et sanguinaire. Donc, Domitien tient tout ce petit monde, hein, cette cour, sous une main de fer, hein, si on peut dire. La crainte est partout, on a peur.
Les empereurs à Rome, il y avait rarement des... Enfin, c'était... Voilà,
oui.
Rarement des centristes.
Alors, ben voilà, ça c'est le propre de l'empereur tyran, hein, après la République, donc, et cet esprit démocratique de la chose publique, hein, de la res publica. Là, c'est clairement une tyrannie, hein, c'est-à-dire tout est sous la coupe d'un homme. Il y a les apparences qui sont sauvegardées avec le Sénat, parce que vous savez, les sénateurs administrent notamment les provinces extérieures romaines. Mmh. Donc l'empereur a quand même besoin de ses sénateurs qui sont des administrateurs. Et donc parmi ces administrateurs sénateurs, il y a ce fameux Massa, hein, qui est gouverneur de la province de Bétie, hein, c'est l'Andalousie actuelle, hein, le sud de l'Espagne. D'accord. Et ce Massa est en fait un des favoris de l'empereur. Donc s'attaquer à Massa, c'est un peu dangereux.
Bah, c'est attaquer à l'empereur.
Voilà, s'attaquer, voilà, tout à fait. Eh bien, c'est pourtant ce qui va se produire. En fait, Massa, étant donné que c'est un tyran dans sa province, mais alors là, d'un niveau très élevé, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il tue, il torture à tout va, voilà, c'est vraiment régner la terreur. Donc une délégation d'habitants de cette province de Bétie décide d'aller à Rome et d'embaucher, si on peut dire, des orateurs, des sénateurs, en fait, qui vont accuser Massa, donc, de mal gouverner sa province. Donc ça, c'est l'affaire Massa qui va être plaidée par... notamment deux grands avocats, hein, Sénécio et Pline.
Hein, connaît un peu Pline l'Ancien.
Voilà, il y a Pline l'Ancien, c'était l'oncle en fait. D'accord. Là, c'est Pline le Jeune, hein, qui est un grand historien. Et donc, il va accepter, vous voyez, malgré la difficulté, hein, d'attaquer un proche de l'empereur, Pline et Sénécio vont accepter donc de plaider pour la province de Bétie. Ils vont plaider et ils vont gagner. Première instance, si on peut dire, ils gagnent. En effet, Massa est reconnu coupable de prévarication, un mot un peu compliqué pour dire que, en fait, on réquisitionne tout, en fait, ouais, hein, tout simplement, sans administrer correctement en prenant les taxes. Ils ont gagné. Sauf que Sénécio va vouloir aller encore plus loin, vous voyez, et va vouloir mettre sous séquestre carrément les biens de Massa. Alors que les biens de Massa, en tant que protégés de l'empereur...
De là, du crime de lèse-majesté.
Mais tout à fait, le crime de lèse-majesté, d'ailleurs, c'est vraiment le crime maximum qu'on peut commettre, ouais, à Rome. Hein, c'est-à-dire vraiment, à partir du moment où on est accusé de lèse-majesté, là, c'est terminer, hein, si on a un délateur, hein, il s'appelle des délateurs, en fait, ces espèces de magistrats qui accusent quelqu'un de crime de lèse-majesté. En fait, ils font ça pour bien se faire voir de l'empereur. Ouais. Bref, toujours est-il...
Tradition qui s'est perpétuée de nos jours, y compris dans la société française.
La lèse-majesté, oui, oui, c'est vrai que
non, la délation.
La délation, pardon. Oui, ça fait 2-3 000 ans que ça dure. Oui, oui, si ce n'est plus, si ce n'est plus.
J'ai l'impression que ça va encore se forger, se polir un petit peu.
Donc voilà le cadre historique et juridique, si on peut dire, de ce roman, l'affaire Massa, avec donc Sénécio et Pline. Je n'ai pas parlé d'un troisième acolyte qui s'appelle Tacite.
Hein. Rien à voir avec l'adjectif.
Non, tout à fait. Non, il y a un lien. Je suis allé voir l'étymologie. Ouais. Non, il y a un lien. J'ai oublié l'étymon latin, mais c'est pas à lui qu'on doit de faire ces accords tacites. Ouais. Tacite, justement, va être vraiment au centre de ce roman, hein, parce que Tacite, lui, il ne plaide pas comme Pline et Sénécio contre Massa et donc contre l'empereur. Tacite, lui, il se permet juste de relire les plaidoiries de ces deux avocats, qui sont ses amis, hein, Sénécio et Pline. Il relit juste leurs plaidoiries pour voir si tout est correct d'un point de vue du droit et d'un point de vue aussi de l'art oratoire. Donc, il est périphérique, hein, Tacite, mais en fait, il est quand même aussi inquiété, hein, parce que vraiment, tous ceux qui vont être pris dans ce complot de lèse-majesté, en effet, risquent vraiment risque la disgrâce ou la mort.
Vous narrez merveilleusement bien le contexte historique et l'histoire. Comment fait-on pour ne pas se perdre dans les méandres des provinces espagnoles, alors qu'on est à Rome avec des noms pas forcément les plus évidents à retenir ?
Donc en effet, il y a beaucoup de voix dans ce roman. Hein. C'est pour ça que ma présentation est assez longue, parce qu'il y a beaucoup de voix. Il y a tous ces sénateurs, il y a bien sûr Domitien, il y a également la femme de ce Tacite, vous voyez, moi-même, j'ai aussi obligé de chercher le nom de mes personnages, la femme de Tacite, Lucrezia. En fait, le roman s'ouvre hein, là-dessus. C'est-à-dire sur la femme de Tacite, Lucrezia, qui part avec son équipage plaider en fait la cause de son mari auprès de l'empereur. Voilà, elle connaît l'empereur depuis sa prime jeunesse. Elle sent que son mari donc va peut-être être attaqué parce qu'il a juste relu les plaidoiries des deux autres avocats. Donc en fait, elle se dirige comme ça. Elle part donc du Mont Palatin et elle va rejoindre
la douceur angevine. J'avais envie du bélé là au milieu.
Oui, en effet du bélé. Mais Rome du bélé. On voyage à Rome notamment. J'ai oublié recueil qu'il a publié.
Vous avez fait sortir les rails, j'adore ça.
Enfin bon, voilà, donc on va suivre le chemin de Lucrezia à travers la Rome, parce que je rappelle le titre, hein, La nuit des orateurs. Oui. Tout ce roman se passe en une seule nuit.
Il est presque flippant d'ailleurs ce titre, hein, parce que quand on commence un bouquin avec, moi je suis sur la nuit des longs couteaux, la nuit des morts vivants.
Tout à fait, mais oui, tout à fait, la nuit c'est toujours inquiétant, hein, surtout d'ailleurs dans la Rome antique, hein, quand on passe notamment le quartier de Subur, hein, le fameux quartier malfamé, où d'ailleurs Lucrezia manque de se faire assassiner. Donc voilà, c'est un début de roman vraiment extrêmement vivant, voilà, qui révèle la Rome du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc ça fait tout de suite entrer le lecteur de plein pied, hein, si on a envie de dire, dans ces intrigues. Il faut préciser notamment le deuxième aspect très important de ce roman, à part bien sûr tout ce que je vous ai raconté sur les luttes de palais, sur cette Rome au sommet de sa gloire et en même temps pas loin de la décadence, hein, pas loin de la fin, c'est la place de la langue. Voilà. Dicadour, je l'ai dit en début de chronique, était donc poète, donc a une attention particulière à la langue. Et là, en fait, ce qu'il propose aussi dans cet ouvrage, c'est vraiment d'examiner le pouvoir des mots. Vous savez, les grandes plaidoiries comme ça, romaines, qui sont très très bien décrites, c'est très importante cette tradition oratoire, mais elle est, si on peut dire, empêchée hein, par côté sanguinaire, vous voyez, des dirigeants. Donc on est quand même dans une époque où la langue est extrêmement soumise à des tensions, parce qu'à la fois c'est la grande tradition romaine, et en même temps on voit que cette tradition romaine ne vaut rien contre un glaive. Et dans ce roman, il y a notamment une très très belle description des soirées littéraires, en fait. Hein, des soirées littéraires romaines, voilà, ce qui nous intéresse aussi en tant que libraire, bien sûr. C'est notamment...
On peut pas faire de comparaison, évidemment.
Non, pas du tout, mais parfois...
2000 ans après, bien
parfois,
sûr.
Parfois, on se dit, voilà, 2000 ans après, on en est toujours un peu là. Et donc là, il y a une très très belle scène d'exposition d'une de ces soirées littéraires, dont je me propose d'ailleurs de vous lire un petit extrait, parce qu'on parle de Pétrone. Alors, Pétrone, pour un lecteur qui s'en rappelle, il a écrit le satirique Satyricon. Le Satyricon de Pétrone, c'est une œuvre majeure en fait, hein, de la littérature latine. C'est peut-être une des premières œuvres de prose qui ne s'inscrit dans aucun genre. Là, on va suivre une soirée littéraire où Pétrone, pour la première fois, est autorisé à lire ses œuvres, alors que Pétrone est un affranchi. Attention, ce n'est pas du tout un citoyen romain à la base. C'était un esclave, il a été donc affranchi. Et dans ces soirées littéraires où vous retrouvez l'intégralité du Sénat et des hauts fonctionnaires romains, c'est très rare d'avoir un affranchi qui va lire ses œuvres. Et là, donc, il y a une magnifique lecture de Pétrone dont je me propose de vous lire un petit morceau. Il se concentre, visage baissé. Et soudain, c'est la tempête. Des phrases bourrasques contre les rhéteurs, contre les prêtres. Les mystères, les enfileurs de clichés, les faiseurs de plans passe-partout, les discours à mots sucrés comme des beignets. Pas d'exorde, mais des attaques à la hache contre les maîtres et les écoles qui obligent la jeunesse à parloter la journée entière sur les sempiternels procès de fils qui ont décapité leur père ou de vierges à sacrifier pour combattre une épidémie. Pétrone parle à voix cassante pour qu'il ne reste plus rien de la façon dont sont aujourd'hui formés les orateurs. Pour réduire à néant toutes les complaisances, les sons creux, les épithètes en graines de pavot sur des gâteaux fadasses. Sa voix s'attaque à la verbosité venue d'Asie, à l'éloquence réduite à des règles trafiquées aux phrases flatulentes, gonflées de clichés. Il parle de réinventer la parole et ses mouvements, d'inventer des mots comme le firent jadis les Grecs, pour ce qu'ils avaient à dire de neuf et de puissant. Et soudain, alors qu'on était dans une réjouissante polémique d'orateurs, l'auditoire se retrouve embarqué derrière un père de famille qu'on suit jusqu'au beau milieu d'un bordel, entre putes, gitons, maquereaux et baiseurs pris à pic, dont la bouche sent également le foutre.
Voilà, alors mais évidemment, Maître Dupont-Moretti, derrière ça, peut-être a été formé à ce genre de tribune.
Mais oui, ils en sont bien sûr gavés, farcis, ces grands avocats aussi contemporains. Ils connaissent la rhétorique latine, et donc voilà, là c'est une...
C'est convaincant, voilà.
Écoutez, ravi de vous l'entendre dire, parce que Pétrone, en effet, il a fait voler en éclats tous les cadres, vous savez, tragédie, comédie, poésie, avec sa prose. Donc là, c'est vraiment, voilà, je voulais vous faire lire un petit exemple de la prose d'Édicadour qui, ça je ne vous ai pas fait cette petite citation d'Édicadour, si vous avez des idées reçues là, sur l'Empire romain, sur un auteur français qui s'attaque à cette complexité de la langue et du système romain, pas du tout. Édicadour, je le cite, « Ce qui me guide, c'est la bonne histoire ».
Peu importe l'époque, peu importe le nombre de personnages, leur nom, ce qui compte, c'est la bonne histoire.
Ça, c'est vraiment le génie d'Édicadour de nous faire entrer dans cette complexité, parce que en même temps qu'on tremble pour ces personnages historiques, vous voyez, qui deviennent d'ailleurs aussi vivants que le moindre esclave sous la plume d'Édicadour, c'est aussi une attention portée aux petites choses. C'est pour ça qu'on parle souvent de ces romans où il y a beaucoup de voix qui s'expriment, de romans chorales ou de romans polyphoniques, des mots pour dire qu'il y a beaucoup de voix différentes qui s'élèvent dans ce roman, des monologues intérieurs, il y a des points de vue subjectifs, mais des descriptions également, des paroles rapportées, des dialogues vraiment ciselés, donc c'est vraiment un grand roman sur la fabuleuse puissance du logos, la parole, qui est remise magnifiquement en doute avec la tyrannie d'un empereur, voilà.
Et la vôtre est reine, mon cher.
Je le souhaite, et je souhaite surtout que vous rentriez dans cet ouvrage, donc La Nuit des Orateurs, d'Édicadour aux éditions Gallimard, paru tout début janvier.
Allez, à Jacques Taest, c'était puissant.
Merci, mais nil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas ?
Donnez-moi la même chose que lui.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.